la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour et merci de commencer la semaine avec nous. Nous sommes le lundi 12 septembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Et comme chaque lundi, nous recevons un invité, en l'occurrence Marek Hudon aujourd'hui. Il est professeur à la Solvay Bruxelles School of Economics and Management de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et ses domaines de compétences sont en particulier la finance durable, la résilience au sein des entreprises, l'innovation sociale et l'éthique dans le business. Nous allons parler avec lui des pistes pour résoudre la crise énergétique, du rôle des entreprises, du scandale Solvay, du rachat de Twitter et même de la journée sans voiture. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Bonjour Marek Hudon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les responsables politiques, les plus hautes institutions sont en train de s'organiser pour répondre à l'urgence face à l'augmentation constante des prix de l'énergie. Les ménages sont inquiets, les entreprises se retrouvent étranglées par leurs factures. À Bruxelles, les ministres européens de l'énergie se sont réunis vendredi dernier. Finalement, la réunion a permis d'établir plusieurs pistes de solutions urgentes, notamment un plafonnement des prix du gaz ainsi que des revenus des producteurs d'électricité. Il y a aussi la création d'une contribution de solidarité à charge des compagnies pétrolières et gazières. Les ministres ont également demandé à la Commission européenne des mesures pour coordonner des économies d'électricité dans l'Union et pour venir en aide aux fournisseurs d'énergie exposés à la crise. La balle est désormais dans le camp d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle doit revenir avec des propositions législatives concrètes lors de son discours très attendu sur l'état de l'Union mercredi matin. En Belgique, le Conseil des ministres restreint doit atterrir également avec des mesures d'urgence. La clé du succès, si l'on veut éviter une crise majeure cet hiver et les hivers prochains, Marek Hudon, c'est donc la solidarité et la concertation entre États et acteurs sociaux.
Oui, certainement, mais la clé du succès pour moi aussi, elle passera par un nouveau mode de gouvernance. Quand on voit le temps qui est nécessaire pour agir dans une situation comme celle-ci, on se rend compte qu'on est finalement encore assez mal équipé institutionnellement, en Belgique, au niveau européen, pour faire face à des crises qui sont pourtant en partie prévisibles sur le long terme, mais dont l'ampleur interpelle. Et dans celle-ci, on voit exactement qu'on a une crise avec une ampleur vraiment inquiétante. 40% des Européens aujourd'hui ont déjà vu leur niveau de vie baisser. Donc ce sont les chiffres du baromètre du Parlement européen du mois de juillet. Qu'est-ce qui sera la situation dans 4 ou 5 mois? Sans oublier en fait que ce manque d'énergie risque aussi d'avoir des conséquences sur la santé, par exemple. Et pour finir, en fait, ce qui marque, c'est que de nombreuses décisions qui sont prises aujourd'hui ne prennent pas assez en compte, je pense, les connaissances qui sont accumulées sur la précarité énergétique, hein, des connaissances de terrain ou dans la littérature. Et si on ne prend pas compte de ces connaissances, qu'est-ce qui va se passer? On va rater la cible avec des aides qui ne vont pas finalement avoir l'objectif ou ne vont pas remplir les objectifs qu'on voudrait avoir. Et donc, on revient finalement à votre constat sur la concertation qui est nécessaire. Oui.
Marek Hudon, on reste à peu près dans le même sujet avec le bureau du plan qui a annoncé des perspectives bien sombres, en particulier pour l'année prochaine, à cause notamment de cette crise, une croissance en berne à 0,5% selon les prévisions, un déficit budgétaire qui se creuse et pas qu'un peu. Le dernier chiffre évoque plus de 31 milliards d'euros. Compliqué dans ces conditions de trouver des ressources financières nécessaires pour mener à bien un programme d'action pour protéger les ménages et les entreprises. Marek Hudon, y a-t-il un moyen pour les pouvoirs publics de trouver de l'argent ailleurs que dans la taxation, par exemple, des fameux surprofits?
Il n'y a malheureusement pas de formule magique, hein, mais je pense qu'en effet, ces surprofits, cette contribution des producteurs énergétiques fait partie de la solution. Quand on voit la situation actuelle, on ne peut pas dire que la politique énergétique n'a porté les fruits escomptés. Il faut la réformer. On est arrivé à de telles augmentations de prix que je pense que le citoyen aujourd'hui ne comprend plus. Et on arrive à une certaine méfiance par rapport à ce fonctionnement du marché de l'énergie. Deux éléments de réponse assez concrets. Un, cette crise, elle a fait beaucoup de perdants, mais aussi quelques gagnants qui se partagent une sorte de pactole. Hein, et il me semble évident que la solution, elle passera par un mécanisme de redistribution plus fort avec les différents acteurs économiques. Et deux, ça nous rappelle aussi l'urgence d'une réforme fiscale aujourd'hui avec un tax shift qui favoriserait le travail, qui favoriserait les entreprises qui vont investir pour avoir moins de consommation plus tard et pour être moins dépendants. Je pense que ce sont deux éléments qui sont importants, oui.
Est-ce aussi aux entreprises de trouver des solutions à une situation qui devrait se prolonger? Les dirigeants sont-ils appelés à se réinventer dans leur quotidien et le développement de leur entreprise?
Oui, tout d'abord, il ne faut pas oublier que notre économie, elle est peuplée d'entreprises qui sont très différentes, avec des profils, des réalités très différentes. Juste un exemple, le dernier rapport de l'Observatoire de l'économie sociale nous montre que l'économie sociale en Communauté Wallonie-Bruxelles, c'est plus de 10% des emplois. Et donc, pour ces entreprises qui font par exemple partie de l'économie sociale, c'est une gouvernance très participative qui permet d'être plus agile, mais aussi une limitation des dividendes. Mais si on prend de la hauteur, quel que soit le type d'entreprise, l'équation aujourd'hui, elle est vraiment très complexe pour les dirigeants qui font pour la plupart du temps face à une situation qui est stressante avec une augmentation du prix des matières premières, de l'énergie, du coût du travail et enfin une pénurie de personnel qui fait que l'augmentation des départs réduit la force de travail. Alors oui, en effet, il faut se réinventer. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu managérial du moment, ne pas se mettre inutilement de la pression, ne pas mettre inutilement de pression sur ses collaborateurs, maintenir un dialogue de qualité. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va démotiver son personnel et même l'épuiser.
Tout le monde a le cancer dans cette famille. Le cancer est devenu le rythme. C'est une mauvaise cadence sur laquelle on danse.
Ce que vous entendez, c'est un témoignage extrait du reportage diffusé mercredi dernier dans le magazine Investigation de la RTBF, portant de graves accusations de pollution à l'environnement néfaste pour la santé contre le groupe de chimie Solvay. En Italie, à Spinetta Marengo, entre Turin, Milan et Gênes, autour d'une usine de l'entreprise, les enquêteurs de la télévision publique, accompagnés de médecins et de scientifiques, disent avoir constaté la présence de produits chimiques controversés dans le sang d'un petit échantillon de la population locale, entraînant des cas de cancer. Solvay conteste les résultats de ce reportage. Avant d'aller plus loin, Marie Cudon, signalons tout d'abord que le groupe de chimie Solvay et l'école dans laquelle vous enseignez, la Solvay Bruxelles School, n'ont en commun que leur créateur et n'entretiennent pas de lien particulier. Voilà qui est dit, cette précision apportée. Prenons un peu de hauteur sur le sujet. Ce genre d'affaires, cela peut-il avoir des conséquences durables sur l'image de Solvay, Marie Cudon? Cela va-t-il affecter sa réputation?
Oui, je pense que c'est clairement négatif. Le secteur de la chimie est déjà un secteur qui a fréquemment mauvaise presse pour son impact environnemental. Solvay fait depuis plusieurs années beaucoup de choses pour se forger une image de bon élève de la durabilité. On pense à, par exemple, Solar Impulse, les avions. Le reportage de la RTBF devrait en effet, à mon avis, avoir un impact fort négatif sur la réputation de l'entreprise.
Aujourd'hui, comment éviter ce genre de suspicion? Ce n'est plus acceptable pour une entreprise. Faut-il changer la façon de communiquer à destination du public?
Oui, communiquer, je pense que de nombreuses entreprises le font déjà beaucoup, mais sans doute en effet pas toujours de manière crédible. Si on prend par exemple l'exemple de Lufthansa, qui a été récemment condamné en Belgique par le jury d'éthique publicitaire pour greenwashing et publicité mensongère, on voit à quel point une campagne de communication comme Make Change Fly dans le cadre de Lufthansa peut être dénoncée ici par GiveAction et avoir du coup un impact très négatif. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je crois au partenariat entre des acteurs comme des entreprises et d'autres acteurs qui ont une indépendance, une crédibilité, comme des ONG spécialisées, des bureaux d'études indépendants qui vont effectuer un audit externe. Alors, il faut aussi des stratégies qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus claires pour régler les problèmes. Ici, par exemple, je pense aux entreprises qui annoncent une neutralité carbone en 2050 sans expliquer la stratégie, sans expliquer le processus pour aboutir à ces objectifs.
Une pause dans notre conversation, Marie Cudon, professeure à la Solvay Bruxelles School, pour vous signaler que c'est aujourd'hui le début de la campagne de vaccination tonale de rappel contre le coronavirus. Pour recevoir une nouvelle dose de booster d'abord, le personnel de soins de santé en hôpital et en hébergement pour personnes âgées. Marie Cudon, je reviens vers vous à présent. Je rappelle que vous êtes professeure à la Solvay Bruxelles School, spécialiste de la finance durable. La situation est compliqué en ce moment pour bon nombre d'entreprises à cause de la crise énergétique. Être une entreprise durable, c'est encore parfois perçu comme une faiblesse par certains. Est-ce une force selon vous, malgré le contexte et les exemples de sociétés en difficulté comme Newbee dans le secteur bancaire par exemple ou Coprocin dans l'alimentation?
C'est une force et une faiblesse. Une force parce que ces entreprises durables, elles répondent profondément à des besoins sociétaux. On sait que la question du sens du travail, elle devient de plus en plus prégnante, ça va même plus loin que ça. Une étude française récente qui indique que pour 45% des répondants, le sens au travail, ça peut se trouver que dans des structures qu'elles considèrent comme engagées. Et aujourd'hui, quand on voit la situation en termes de ressources humaines en Belgique, on voit que de nombreux DRH paniquent face à ces difficultés de recrutement. On lit que la Belgique n'a jamais compté autant d'emplois vacants. Une deuxième force est sans doute aussi le fait que de nombreux investisseurs anticipent déjà aujourd'hui des règlements européens sur la transparence et la durabilité, et donc recherchent des entreprises engagées. Maintenant, cependant, il ne faut pas être naïf aussi, évidemment. Être une entreprise durable, ça comporte aussi des difficultés et des faiblesses dans une économie de marché. Quand on met son impact social et environnemental au cœur de sa mission, ça prend du temps, la gérer, mesurer cet impact, c'est évidemment pas rien. Et on le voit quand on suit, par exemple, des startups qui sont engagées socialement ou environnementalement, elles prennent en général un peu plus de temps pour atteindre l'équilibre financier que les autres startups.
Celle-ci n'est pas une société en grande difficulté, mais tout de même, Twitter doit penser à son avenir. Ses derniers résultats sont décevants et le géant des réseaux sociaux est concentré sur l'affaire de son rachat, avorté pour l'instant par Elon Musk. Le patron de Tesla a mis unilatéralement fin le 8 juillet à l'opération. Les actionnaires vont se réunir demain pour en discuter lors d'une réunion en vidéoconférence. Que penser de cette saga, Marie Cudon ? Manipulation, faux semblant, gros sous, ce sont les termes qui nous viennent immédiatement à l'esprit.
Oui, je pense que c'est vraiment une saga digne des meilleures séries. L'offre de Musk, elle est à 44 milliards, c'est gigantesque évidemment. 44 milliards, c'est plus de 15% des dépôts belges en une seule personne, celle d'Elon Musk ici. Il faut rappeler aussi les craintes qui étaient liées à cet achat. Musk a annoncé qu'il serait très réticent à supprimer les choses, à suspendre des utilisateurs définitivement. Et donc, on irait vers un monde où il y a plus de fake news, une difficulté en tout cas croissante de cerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et c'est d'ailleurs une des craintes qui est partagée en Europe. Le dernier baromètre européen montre que nos citoyens craignent vraiment cette difficulté de comprendre mieux qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité des médias, en fait, de ne pas amplifier ceci en prenant justement de la distance, de ne pas simplement mettre des successions de tweets, alors qu'on sait que les algorithmes de ces plateformes valorise souvent les discours qui sont plus polarisants et qui sont plus simplistes. Ouais.
Et un procès intenté par Twitter contre Elon Musk doit débuter le 17 octobre. C'est dimanche prochain, la journée sans voiture en région bruxelloise. Seul le ring sera ouvert. Soyez prévoyants si vous comptez vous rendre dans la capitale. Avec les travaux et changements de sens de circulation, les automobilistes se retrouvent souvent coincés le matin dans d'énormes embouteillages qui se prolongent chaque année. Pour les travailleurs, Marie Cudon, est-ce la solution de rester chez soi ou pour renforcer l'esprit d'équipe, est-ce préférable de se rendre sur son lieu de travail ?
Mais par rapport à ces problèmes de mobilité, il y a, je pense, aujourd'hui vraiment une prise de conscience qu'on doit aller vers un changement de modèle. Mais ces grandes réformes, elles sont souvent compliquées. On le sait, il faudra évidemment encore faire des ajustements. Mais je pense aussi qu'il faut garder en tête que lorsqu'on fait des transitions comme celle de la mobilité ici, plus important est qu'elle soit juste, menée avec donc des mécanismes de compensation pour les personnes les plus faibles et avec une vision qui soit partagée, une vision de long terme. Mais pour revenir à votre question, je ne pense pas que la solution elle sera de rester soi, non. Il faut faire particulièrement attention à la santé mentale de nos citoyens. Je pense qu'il y a vraiment un risque d'isolement dans la situation dans laquelle on est. Et je crains que la crise énergétique qui va s'amplifier cet hiver ne fasse d'ailleurs qu'accentuer les problèmes de santé mentale si ce n'est pas pris à bras le corps. Tout est encore possible aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important de réagir et d'agir pour faire attention à la santé mentale des différents travailleurs.
Merci Marie Cudon d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À très bientôt Marie Cudon, merci encore d'avoir été avec nous. Le brief de ce lundi a été préparé par Ondine ORS. À demain, belle journée.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.